Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Cette semaine, et si tout m'était compté, ça donne à la suite et à la fin des principales aventures de l'Iliade. Aujourd'hui, place à un épisode mémorable, incontournable, le cheval de Troie. L'armée troyenne n'avait plus de chef, mais les murailles de Troie restaient infranchissables, bien que les Grecs et presque rempli les 6 fatalités. Agamemnon convoqua ses chefs. Il y avait là Pyrrhos, le fils du regretté Achille, Diomède, Ulysse, Ajax le Petit, surnommé ainsi pour le différencier du grand Ajax, mort de folie. Pyrrhos se montra très sceptique. J'ai fait le tour de la ville 5 fois aujourd'hui. Je n'ai pas vu une seule faille. Vouloir franchir les remparts, c'est condamné à mort tous nos soldats. Agamemnon soupira. Cela fait déjà 10 ans que nous avons quitté nos royaumes et nos familles. Si nous ne trouvons pas une idée pour pénétrer dans Troie, ce sont nos petits-enfants qui finiront cette guerre. Ulysse, qui jusqu'alors était resté dans l'ombre, s'avança. Construisons un cheval de bois de dimensions gigantesques et dans le corps duquel je me cacherai avec les meilleurs de nos guerriers. Nous l'abandonnerons devant Troie, et l'armée fera semblant d'appareiller. Lorsque les Troyens auront vu les voiles de nos bateaux s'éloigner, et qu'ils auront tiré le cheval à l'intérieur de leurs murailles, j'attaquerai, et j'ouvrirai les portes de la ville à l'armée, qui pendant la nuit sera revenue. L'idée d'Ulysse était tout juste ingénieuse. Mais les plus sages, parmi les chefs grecs, émirent des réserves. Pourquoi les Troyens seraient-ils naïfs au point de s'emparer du cheval et de le tirer à l'intérieur de leur muraille? Ulysse l'avait prévu. Il expliqua et les chefs présents l'applaudirent. L'armée grecque fut réquisitionnée pour assister le sculpteur Étéos. On se rendit sur le mont Ida où l'on abattit des centaines d'arbres qui furent tirés jusqu'au camp par des mules. Les Troyens, qui ne quittaient plus l'abri de leur rempart, ne virent rien de ces travaux. Lorsque le cheval fut terminé pour donner de la vie à son regard, on fertit ses yeux de pierres précieuses. Autant vous dire que ce cheval était magnifique. Ulysse, Ménélas, Diomède, Ajax le Petit, Pyrrhos, tous les hommes braves entrèrent et se serrèrent dans ses flancs. Puis, les Grecs suivirent le plan d'Ulysse. Ils laissèrent le cheval dans la plaine de Troie et sur la plage brûlèrent leurs tentes avant d'appareiller les navires. Les Troyens, du haut de leur rempart, crurent qu'ils partaient. On envoya des éclaireurs dans la plaine. Ces derniers virent l'énorme cheval de bois et un vieillard qui sanglotait. C'était le grec Simon d'Argos. Il était couvert de meurtrissures. Il fut amené sanglant devant Priam qui l'interrogea. Les Grecs ont-ils définitivement levé les voiles? Sais-tu pour quelles raisons ils ont renoncé à la guerre? Le vieillard avait l'air terrorisé. Ils n'y ont pas renoncé. Ce cheval est une offrande à Minerve. Le devin Calchas a dit que si ce cheval restait sur la plage, Minerve nous donnerait la victoire et que Troie tomberait toute seule. Et pourquoi es-tu resté? Parce que je n'ai pas voulu croire à l'oracle. Alors ils ont menacé de m'immoler, avant de trouver plus judicieux de me laisser sur la plage, afin que je témoigne de la chute de Troie. Cela signifie que si le cheval entre dans la ville, les Grecs seront perdus, conclut Priam. Qu'on casse les montants de la porte des remparts, afin de l'y faire pénétrer. Il combla Simon d'Argos de cadeaux. Simon d'Argos le remercia avec des larmes de reconnaissance, en omettant toutefois de préciser qu'il était un cousin d'Ulysse, avec lequel il avait longtemps répété sa leçon, et que les blessures superficielles qu'il avait reçues lui avaient été faites avec son accord pour rendre sa douleur plus authentique. Seule Cassandre, la plus belle des filles de Priam, s'opposa à ce projet. Elle parcourut la ville en se lamentant, disant aux Troyens « Insensé ! Quel aveuglement vous fait introduire dans vos murs ce cheval, ouvrage de la perfidie! Ne voyez-vous pas que vos ennemis sont cachés dans cette prodigieuse machine ? Mais personne ne croyait Cassandre. Elle avait été aimée d'Apollon, qui, pour la séduire, lui avait enseigné l'art de prédire l'avenir. Mais comme Cassandre n'avait pas voulu l'épouser, et comme Apollon ne pouvait lui retirer le don qu'il lui avait donné, le dieu, susceptible, avait décidé que Cassandre, la prophétesse, bien que disant la vérité, ne serait jamais crue des mortels. Les Troyens s'attelèrent en foule au cheval qu'ils traînèrent dans la ville, précédés de joueurs de flûte, parmi les champs d'allégresse. Il leur fallut une journée entière pour tirer la statue derrière leur fortification, tant elle était lourde. Le soir, Hélène, qui à la mort de Paris avait épousé Déiphobe, l'un de ses frères, comme beaucoup de Troyennes, vint contempler le cheval qu'on avait laissé sur la grande place de la ville. Ménélas, à travers les planches qui composaient les flancs du cheval, reconnut son rire de cristal et sa voix douce, et Ulysse dut lui mettre la main sur la bouche pour qu'il se taise. Pendant la nuit, les Troyens, persuadés d'être enfin victorieux, firent une grande fête au cours de laquelle les soldats, quittant leur poste de garde, s'enivrèrent. Quand le silence fut venu, à l'heure où la nuit est la plus profonde, Simon d'Arcos vint appuyer une échelle sur le flanc du cheval et débloqua une entrée secrète. Les Grecs, prudemment, sortirent du cheval. Ils dégainèrent leurs épées et égorgèrent tous ceux qui se trouvaient sur leur passage. Monté sur la tour la plus haute de la forteresse, un guerrier grec alluma un feu pour avertir l'armée qui se trouvait au large sur les bateaux qu'elle pouvait revenir, accoster et attaquer. La nuit n'était pas achevée quand l'ensemble de l'armée grecque, silencieusement, passa les portes de Troie qu'on venait de lui ouvrir. Le carnage commença. Les Grecs mirent le feu aux habitations, décapitant ceux qui en sortaient. La ville fut rapidement un immense brasier. Les chefs grecs s'étaient rués vers le palais de Priam. Pyrrhos, le fils d'Achille, y entra le premier. Priam, que les cris de ses sujets avaient alarmé, priait. L'un de ses fils, Polites, blessé par Pyrrhos et couvert de sang, vint mourir à ses pieds. Alors Priam, de toutes ses forces de vieillard, prit un javelot et le lança en direction du fils d'Achille. Le javelot n'atteint pas son but, tant Priam manquait de force. Pyrrhos se jeta sur lui, le saisit par ses cheveux et le transperça de son épée. Ainsi mourut Priam. Ainsi tomba à la vue de Troie embrasé ce superbe dominateur de l'Asie, roi de tant de peuples. Il ne fut plus qu'un tronc sanglant, une tête séparée des épaules, un cadavre sans nom, comme le dit Virgile. Pendant que Priam expirait, Andromaque, la veuve d'Hector, courait affolée dans les salles du palais, tenant dans ses bras son fils, Astyanax. L'enfant pleurait et se cramponnait à sa mère. Pyrrhos, fils d'Achille, affamé de carnage, cherchait partout le fils d'Hector. Il finit par le trouver, l'arracha des bras d'Andromaque, malgré ses cris et ses supplications, et le jeta du haut des remparts. Ménélas, lui aussi, ouvrait toutes les pièces du palais à la recherche d'Hélène. Il finit par la trouver. Elle dormait dans les bras de Déiphobe, son nouvel époux, l'un des frères de Paris. Ménélas le tua aussitôt, ce qui réveilla sa belle épouse, qui sauta hors du lit pour se réfugier derrière une tenture. Ménélas allait la frapper à la gorge quand Hélène lui sourit. Cela lui sauva la vie. Elle était toujours aussi belle. Ménélas, toujours sous le charme de sa femme, rangea son épée et ordonna à son épouse de le suivre, ce qu'elle fit aussitôt, en apparence soumise. Aînée fut l'un des rares à pouvoir échapper au massacre, car les dieux veillaient sur lui. Il quitta la ville Emportant Anchise, son vieux père paralysé sur ses épaules, son fils Ascagne marchant devant lui. Des soldats grecs voulurent le poursuivre, mais Agamemnon, ému par ce dévouement filial, ordonna qu'on le laisse passer. Cassandre, la prophétesse, qui s'était réfugiée dans le temple de Minerve, au pied de sa statue, fut arrachée au temple où elle s'était réfugiée par Ajax le Petit, qui de surcroît la maltraita. Il fallut l'intervention d'Ulysse pour qu'Ajax le Petit cesse de la frapper. Il voulut le lapider, car s'attaquer à une prêtresse de Minerve dans son temple était un sacrilège puni de mort. Calchas le calma en lui annonçant que les dieux se chargeraient eux-mêmes du châtiment d'Ajax le Petit. Troie n'était plus que ruine fumante. Les Grecs prirent toutes les richesses qu'ils pouvaient emporter, puis se partagèrent les femmes captives qui avaient survécu au massacre afin de les vendre plus tard comme esclaves. Seule Hélène, au bras de Ménélas, souriait sans remords. Cassandre regarda avec mépris cette femme qui avait été sa belle-sœur pendant 10 ans et qui avait vécu dans le même palais qu'elle, cause de tous les malheurs de Troie. Agamemnon, qui aimait les belles femmes, choisit Cassandre, bien que cette dernière lui ait prédit la fin de sa lignée, celle des Atrides. Pyrrhos, fils d'Achille, exigea d'avoir la belle Andromaque, dont il avait massacré le fils. Il exigea aussi la jeune vierge, Polyxène, d'une éclatante beauté, l'une des dernières nées de Priam et d'Hécube, qu'Achille, si la paix s'était faite entre Grecs et Troyens, aurait dû épouser. Les Grecs, rassasiés de carnage, songeaient au départ. Mais au moment de hisser les voiles, une tempête se leva qui empêcha le départ. Calchas et les autres devins grecs en conclurent que c'était Achille qui se manifestait et qui réclamait pour son séjour aux enfers celle qui lui avait été promise. Il fut décidé, malgré les supplications d'Hécube, d'immoler Polyxène, aumône d'Achille. Devant l'armée grecque réunie, Pyrrhos, fils d'Achille, prit Polyxène par la main et la conduisit devant le tombeau d'Achille, érigé là où avait brûlé son bûcher funèbre. Polyxène, qui avait deviné ce qui l'attendait, comme Iphigénie, 10 ans auparavant, exigea qu'on ne lui lie ni les mains, ni les jambes. Elle dégagea elle-même sa gorge et sa poitrine, et s'étant agenouillée devant Pyrrhos, qui avait dégainé une épée enrichie d'or, lui dit « Voici ma poitrine, si tu veux la frapper, frappe, si c'est à la gorge, la voici, offerte à tes coups mortels. » Saisi de compassion, Pyrrhos hésita un instant. Enfin, il porta un coup terrible en travers du cou de Polyxène, d'où jaillit un flot de sang. Dès qu'elle eut rendu le dernier soupir, les Grecs lui firent des funérailles solennelles. Peu après, la tempête s'apaisa. Les bateaux purent partir. Polymnestor, roi de Thrace, avait reçu en butin la vieille Hécube. Elle avait vu mourir tous les enfants qu'elle avait eus de Priam. Elle se vengea en crevant les yeux de Polymnestor et en tuant tous ses fils. Une légende prétend qu'elle ne mourut point, mais qu'elle se transforma en chienne qui, la nuit, hurle encore à la mort afin que ceux qui l'entendent n'oublient pas l'immense tragédie que fut la guerre de Troie. Troie brûlait toujours, et les navires s'éloignaient. À leur bord, les captives pleuraient les morts qu'elles laissaient derrière elles et le triste sort qui les attendait. Elles allaient être, elles qui avaient été princesses, humiliées. Elles veilleraient aux portes des maisons où devraient faire le pain pendant la nuit, coucher sur la terre, s'habiller de lambeaux et se soumettre à toutes les exigences de leur nouveau maître. Agamemnon ne retrouva jamais son trône. Lorsqu'il revint à Argos, accompagné de Cassandre, dont il était tombé amoureux, Clytemnestre, sa femme, qui ne lui avait jamais pardonné le sacrifice de leur fille Iphigénie, le fit égorger par son amant Égiste. Cassandre, elle aussi, fut assassiné par Clytemnestre. Ménélas, frère d'Agamemnon, fut jeté par une tempête sur la côte d'Égypte et obligé d'y rester 8 années. Il finit par retrouver son royaume de Sparte, où il vécut heureux avec Hélène. À la mort de Ménélas, Hélène fut chassée par les héritiers du roi. Elle erra jusqu'à Rhodès, où la reine de l'île, jalouse de sa beauté, la noya dans son bain avant de la pendre. Hermione, la fille de Ménélas, avait été fiancée à Oreste avant la guerre de Troie. Mais Ménélas avait ensuite promis de la marier à Pyrrhos, le fils d'Achille, afin qu'il vienne participer au siège de Troie. Oreste voulut faire valoir ses prétentions et reprendre Hermione. Pyrrhos s'y refusa et les deux hommes se battirent dans le temple de Delphes. Pyrrhos y fut tué par Oreste. Ce meurtre rendit libre Andromaque que Pyrrhos avait prise comme concubine. Elle épousa Hélénus, l'un des frères d'Hector, dont elle eut 3 fils. L'aîné fut à nouveau nommé Astyanax. Ils reconstituèrent en Épire une nouvelle Troie. Ajax le Petit, qui avait maltraité Cassandre, fut, comme Calchas l'avait prédit, puni par les dieux. Son navire, sur le chemin du retour, fit naufrage suite à une violente tempête. Ajax le Petit parvint à gagner un rocher et se crut tiré d'affaire. Mais une vague gigantesque submergea le rocher et l'emporta. Palamède, celui qui avait découvert la ruse d'Ulysse lorsqu'il avait fait le fou pour ne pas venir à Troie, était mort depuis longtemps quand la ville fut prise. Mais Ulysse ne lui avait pas pardonné de s'être montré plus rusé que lui et en avait conçu à son égard une haine mortelle. Lorsque l'armée grecque débarqua sur les rivages de Troie, on trouva enfoui sous la tente de Palamède une lettre de Priam et une grosse somme d'argent. Accusé de trahison, Palamède fut lapidé par les Grecs. On sut ensuite que la prétendue lettre de Priam et l'argent avaient été mis là par Ulysse. Nauplius, le père de Palamède, accourut pour demander justice à Agamemnon. Des Grecs, qui avaient absolument besoin d'Ulysse, ne voulurent pas l'écouter. Alors Nauplius résolut de consacrer à la vengeance tout ce qui lui restait de temps à vivre et enveloppa tous les Grecs dans une haine commune. Il envoya aux femmes des principaux chefs de fausses nouvelles afin de leur faire croire que leur mari était mort ou qu'ils étaient infidèles. C'est ainsi qu'Anticlée, mère d'Ulysse, croyant son fils perdu, se pendit et que Pénélope se jeta à la mer de désespoir. Mais elle fut retirée de l'eau et dut ensuite résister aux sollicitations des prétendants. La vengeance de Nauplius éclata encore quand la flotte grecque, ayant pris le chemin du retour, une épouvantable tempête la jeta sur la côte de Bée. Il alluma des feux sur les récifs les plus dangereux pour que les nefs s'y fracassent. Et accompagné de ses fils, il tua tous ceux qui eurent le malheur d'échouer sur le rivage maudit. Quant à Ulysse, il devait mettre encore plus de temps que les autres chefs pour retrouver son royaume. Et l'on retrouve ses aventures dans l'Odyssée. Mais voyez-vous, cela est une autre histoire. Ainsi se terminent les principales aventures de l'Iliade. Merci pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux récits.